Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la campagne électorale pour l'élection présidentielle aux États-Unis vient de rentrer dans une nouvelle phase. Car si les primaires ne sont pas encore officiellement achevées, le résultat est déjà limpide. L'affiche 2024 sera l'affiche de 2020, Joe Biden contre Donald Trump. Deux candidats tout puissants dans leur propre parti et qui se sont imposés en un temps record aux primaires, mais qui souffrent également d'énormes faiblesses dès lors qu'on sort des primaires et qu'on se projette vers une élection générale. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? À quoi devrait ressembler ce début de campagne aux États-Unis ? Pour répondre à cette question, j'appelle Piotr Smolar, correspondant du Monde à Washington. Mais juste avant, direction Los Angeles, où notre envoyé spécial Garance Munoz s'est rendu à une soirée électorale pour le Super Tuesday, organisée par les partisans de Donald Trump. Trump-Biden, le duel des colosses au pied d'argile, un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard.
Nous sommes le mardi 5 mars et je me trouve au sud de Los Angeles, à Long Beach, pour le Super Tuesday. Ce super mardi où 15 États américains votent pour les primaires des partis républicains et démocrates, dont la Californie. Alors ce soir, des militants trumpistes se réunissent pour regarder ensemble les résultats et célébrer la victoire probable de leur candidat Donald Trump. Et c'est à cette watch party, comme on appelle ça ici, que je me rends. Comme prévu, Donald Trump remporte la mise. État après État, les supporters aux casquettes rouges « Make America Great Again » applaudissent les succès jusqu'au discours de victoire de leur candidat.
Ils me disent, les experts et les autres, qu'il n'y en a jamais une comme ça, aussi concluante. C'était une soirée incroyable, une journée incroyable. Ça a été une période incroyable.
La soirée est organisée par une retraitée souriante, née aux Philippines et arrivée aux États-Unis lorsqu'elle avait 10 ans.
My name is Rachel Gunther.
Je m'appelle Rachel Gunther et je suis la fondatrice du projet des quartiers patriotes.
Of the Patriot Precincts Project.
Et comme tous les Trumpistes avec qui je discute ce soir-là, elle défend le bilan de l'ex-président et parle de son mandat comme d'une espèce de paradis perdu.
His America First policy is...
Sa politique de l'Amérique d'abord, c'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont nous avions besoin en 2016, ce dont nous avions besoin en 2020, et c'est ce dont nous avons vraiment besoin maintenant, en 2024. Je veux dire, nous n'avions pas de guerre avec lui. Nos taux d'intérêt étaient bas pour les prêts, l'immobilier était abordable, l'essence était abordable, la nourriture était abordable, la frontière était sûre, il n'y avait pas d'invasion. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve vraiment. Parce que je suis une immigrée arrivée de manière légale. Et je n'aime pas voir tous ces immigrés illégaux entrer. Nous ne pouvons pas laisser le monde entier venir aux États-Unis.
Et quand je lui demande ce que doivent faire les républicains pour convaincre les électeurs de voter pour Donald Trump en novembre prochain, elle éclate de rire.
We don't have to do much.
Nous n'avons pas besoin de faire grand-chose. Laissons simplement Biden être Biden. Il est ridicule. Nous sommes tous tellement embarrassés par lui. Il est juste tellement embarrassant.
Un avis qui semble partagé par les autres militants présents ce soir. Mark Risk, par exemple, voit en Joe Biden un adversaire facile à battre en raison de son âge.
He's too old.
Il est trop vieux. Le type veut gouverner le pays alors qu'il n'est plus maître de ses intestins. Ça n'a aucun sens.
Mais la campagne ne sera pas si simple. Timothy O'Reilly est le président du Parti républicain en Californie et il le martèle à ses troupes. Le travail est loin d'être achevé.
Vous allez devoir faire exactement ce que vous faites ici. Restez engagés. C'est une soirée de célébration. Mais demain, le vrai travail commence, les gars. Si vous ne le sentez pas encore, c'est en train d'arriver. Nous allons changer l'État, nous allons changer le pays et nous n'aurons aucun démocrate élu président dans les 100 prochaines années.
Alors, si le résultat des primaires est connu d'avance, la véritable bataille entre Donald Trump et Joe Biden commence maintenant.
Bonjour Pietre.
Bonjour.
Pietre, on vient de l'entendre, ce Super Tuesday enlève tout suspense pour l'affiche de cette élection présidentielle à venir. Du côté démocrate, pour Joe Biden, sa victoire aux primaires était attendue, comme c'est toujours le cas pour un président en exercice. Mais du côté de l'opposition, du côté du parti républicain, c'est peut-être la première fois de l'histoire américaine que des élections primaires se terminent aussitôt que le match est si plié d'avance. Comment est-ce qu'on l'explique ?
Oui, c'est vrai que Donald Trump, une nouvelle fois, marque l'histoire. Il est le premier républicain à réussir à obtenir l'investiture de son parti 3 fois de suite. C'est un premier exploit et il réussit aussi à obtenir cette investiture très, très en amont dans le processus de désignation. Vous savez que d'habitude, Super Tuesday, c'est un pic d'attention dans ses primaires, mais ce n'est pas la fin de ce processus-là. Or, dès à présent, l'écrémage a été tellement rapide et tellement puissant parmi les candidats républicains qu'il n'y a plus personne en face de lui, puisque Nikki Haley a décidé finalement de se retirer de la course au soir de ce Super Tuesday, constatant l'évidence mathématique, elle ne pouvait plus rattraper son retard par rapport à Donald Trump.
C'est maintenant à Donald Trump de mériter les votes de ceux qui, dans notre parti et au-delà, ne l'ont pas soutenu. Et j'espère qu'il y parviendra. Dans le meilleur des cas, la politique consiste à rallier les gens à votre cause et non à les en détourner. Et notre cause conservatrice a cruellement besoin d'un plus grand nombre de personnes.
Et alors Piotr, on vient de l'entendre, Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, sous Donald Trump d'ailleurs, et elle n'appelle pas clairement ses électeurs à voter pour lui. Elle parle dans son discours de tous ceux qui ne soutiennent pas Donald Trump au sein du parti. Et ça, est-ce que ça représente aujourd'hui une partie importante des républicains ?
Alors, c'est difficile à estimer avec précision, puisque vous savez que les primaires, c'est le cas traditionnellement, mobilisent les militants les plus actifs, les plus concernés, les plus mobilisés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a, pendant très longtemps, sans doute sous-estimé le poids de ce peuple MAGA, du nom du mouvement trumpiste, au sein du Parti républicain. On disait qu'il représentait environ 30-40% des voix. Or, de façon systématique, dans chaque État, depuis l'Iowa et le début des primaires, à la mi-janvier, Donald Trump arrive au-delà de 50%. Et donc, le poids de ces militants extrêmement mobilisés et extrêmement fervents est aujourd'hui décisif. Et donc, la vraie question qu'a posée Nikki Haley, c'est y a-t-il encore la place pour des candidats traditionnels, très conservateurs, mais pratiquant la politique comme on le faisait encore au sein du Parti républicain il y a 15 ou 20 ans? Eh bien, la réponse aujourd'hui, elle est clairement non. Il n'y a pas la place, même si Nikki Haley a réussi à fédérer autour d'elle beaucoup d'électeurs conservateurs modérés et d'électeurs indépendants qui manifestent un rejet absolument total de Donald Trump et de sa pratique.
Et alors Piotr, tu nous dis que ce peuple MAGA, il submerge les militants républicains. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, avec un certain nombre de responsables du Parti républicain qui ont été mis à la porte par les soutiens de Donald Trump, que les instances elles-mêmes du Parti républicain se font désormais noyauter ?
Oui, le mot noyauté est assez juste. On peut aussi parler en termes économiques d'une forme d'absorption du Parti républicain par le mouvement MAGA. C'est-à-dire que Donald Trump a réussi à obtenir la tête de celle qui dirigeait le comité national républicain, Rona McDaniel, qui pourtant était elle-même trumpiste, qui se tenait aux côtés de Donald Trump au fil de toutes ces années, mais auquel Donald Trump a reproché de ne pas suffisamment le défendre, lui a aussi reproché de ne pas avoir levé assez d'argent. Et donc, effectivement, Donald Trump a placé un certain nombre de ses conseillers, et même sa belle-fille, Lara Trump, à la tête du Parti républicain, et dorénavant, cette machine va être au service, au sens politique et financier, du candidat Donald Trump.
Donc du côté de Trump, c'est une victoire totale. Penchons-nous maintenant du côté de Joe Biden. Les résultats des primaires lui assurent également une très forte légitimité, même si là le cas est un peu différent. C'est un président sortant, donc il n'avait pas vraiment de challenger.
Oui, il y avait des challengers, mais qui étaient avant tout symboliques. Donc on était plutôt aux aguets concernant d'autres signaux dans les primaires démocrates, c'est-à-dire notamment la participation pour voir si les gens étaient vraiment mobilisés, car on sait que c'est un des grands enjeux pour Joe Biden, c'est comment mobiliser son propre camp. Donc Il a obtenu effectivement des scores très aisés au cours des différentes étapes de ces primaires démocrates. Mais pour autant, les interrogations ne sont pas tues sur la légitimité de sa candidature. Et on voit bien que ce débat persiste, même s'il est assez étouffé, parce que tout le monde est avant tout mobilisé par la nécessité d'écarter la menace Trump qui pèse aujourd'hui de façon existentielle sur la démocratie américaine.
Donc la bataille pour l'élection de novembre est enclenchée. Et alors, à ce jour, Piotr, entre les deux candidats, est-ce qu'on a déjà une idée de qui pourrait l'emporter? On voit beaucoup d'enquêtes d'opinion circuler dans la presse américaine. Ça inquiète aussi beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui?
Oui, alors il faut dire d'abord un mot sur cette industrie sondagière et cette industrie du commentaire aux États-Unis qui occupe une place absolument prépondérante dans chaque cycle électoral et qui fait vivre beaucoup de gens aussi, qui représente un enjeu financier. Et c'est vrai qu'on est assommé ici aux États-Unis alors qu'on est à 8 mois du scrutin. 8 mois, vous imaginez, il peut encore se passer tellement de choses. On est assommé presque quotidiennement, en tout cas de façon hebdomadaire, par des études d'opinion. Et on a tendance à retenir les études les plus dramatiques, c'est-à-dire que celles qui montrent une montée en puissance de Donald Trump. Il faut vraiment se garder de toute prévision à ce stade. Il peut se passer énormément de choses et on voit très bien les forces et les faiblesses de chacun. Mais pour l'instant, il ne faut pas anticiper parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de facteurs qui pourraient décider de cette course et des facteurs qui ne dépendent pas forcément uniquement de la qualité de la campagne des candidats.
Alors Piotr, on va maintenant parler des fragilités de ces deux candidats. J'aimerais qu'on commence par Donald Trump. Tu l'as dit, il est tout puissant chez les Républicains. Mais alors quand on change de contexte, quand on passe à une élection générale avec l'ensemble de l'électorat américain, est-ce que c'est toujours le cas?
Alors il y a eu un effet de loupe qui est absolument saisissant avec ces primaires républicaines. On a l'impression d'une marche triomphale de Donald Trump vers un nouveau mandat. Or cet effet de loupe est complètement trompeur. C'est-à-dire que Donald Trump souffre de vulnérabilité peut-être encore plus forte qu'en 2020. Pourquoi ? Parce que depuis 2020, en l'espace de 3 ans et demi, son discours s'est profondément radicalisé. Il s'est aliéné une partie de l'électorat qui pourtant a été séduite par lui dans le passé, mais qui trouve qu'il est allé beaucoup trop loin, notamment au moment de l'assaut du 6 janvier, et ensuite de son discours qui a profondément infusé dans le peuple MAGA, qui est le discours de remise en question de la légitimité des institutions et des élections mêmes qui ont eu lieu en 2020. Donc, il a un problème d'assiette électorale potentielle. Qui sont les gens qui sont prêts à voter pour lui? Et pour l'instant, il y a une vraie interrogation à ce sujet-là. Son deuxième handicap majeur, évidemment, ce sont ses ennuis judiciaires. Rappelons-le, il est inculpé pour 91 chefs différents dans 4 enquêtes et pour des faits extrêmement sérieux. Un premier procès va commencer le 25 mars à New York pour les versements qu'il avait faits au moment de la campagne présidentielle de 2016 à une actrice de film X qui est surnommée Stormy Daniels. Il y a d'autres affaires encore plus graves, notamment du 6 janvier, qui doivent encore être jugées. On ne sait pas d'ailleurs si les procès auront lieu avant les élections ou pas. Une partie de cet enjeu-là dépend notamment de la Cour suprême. En tout cas, ces ennuis judiciaires qui, pour l'instant, ont joué, il faut le reconnaître à son profit, parce que ces affaires ont réussi à cimenter le peuple MAGA autour de son leader, autour de Donald Trump. On ne sait pas quel impact réel elles auront auprès du grand public américain au moment de l'élection de novembre.
Tu le disais, Piotr, il y a eu une décision de la Cour suprême qui s'est déclarée prête à examiner une potentielle immunité de Donald Trump pour des actes qu'il aurait commis lors de sa présidence. Et donc, ça pourrait reporter un éventuel procès sur le 6 janvier à après l'élection.
Oui, on est dans une configuration complètement inédite où la Cour suprême est un acteur majeur de cette élection présidentielle. Car en effet, elle s'est déjà prononcée contre une disqualification de Donald Trump dans les primaires républicaines qui avait été décidée dans 2 États. Et aujourd'hui, elle doit encore décider au cours des mois à venir de la question de l'immunité totale dont se prévaut Donald Trump pour les faits couverts par sa présidence. C'est vraiment un enjeu absolument majeur, parce que cette immunité totale, qui ne répond à aucune jurisprudence et à aucun texte officiel américain, c'est une sorte de bouclier magique que brandit Donald Trump contre toutes les poursuites fédérales ou locales contre lui. Et la Cour suprême va vraiment avoir la main lourde dans cette campagne au moment de se prononcer. Et si jamais elle accordait même en partie raison à Donald Trump, évidemment pour lui, ce serait une victoire absolument majeure dans cette campagne.
Donc il y a une possibilité que Donald Trump sorte gagnant de ses ennuis judiciaires. Ça ne va pas magiquement le disqualifier dans l'élection présidentielle comme l'espèrent les démocrates.
C'est vrai qu'il y a eu pendant longtemps une forme de pensée magique et un peu paresseuse chez les démocrates qui consistait à penser que la justice allait faire le travail à leur place en écartant Donald Trump de la course à la présidentielle. Et aujourd'hui, il y a, semble-t-il, une prise de conscience assez tardive chez les démocrates du fait qu'il va falloir se retrousser les manches et il va falloir battre Donald Trump, entre guillemets, à la régulière, dans le cadre d'un affrontement politique classique, même si pour eux, il ne s'agit pas d'un affrontement classique, dans la mesure où Donald Trump représente une menace pour les institutions américaines et pour la démocratie même.
D'accord, donc voilà pour les fragilités de Trump. J'aimerais maintenant qu'on passe à Joe Biden et sa principale faiblesse, on la connaît, Piotr, c'est son âge. Et ça, c'est une chose contre laquelle il peut difficilement lutter.
Oui, il a longtemps minoré le problème, il a fait aussi des plaisanteries dessus, en disant qu'il avait 192 ans ou qu'il était là depuis une éternité. Mais on voit bien que ça dépasse largement le cercle des républicains qui mettent en doute ses capacités cognitives et physiques depuis longtemps. Il y a une vraie interrogation dans le public américain, dans son ensemble, au sujet des capacités de Joe Biden de mener campagne et d'assumer un nouveau mandat jusqu'au bout. Et face à cela, qu'a fait Joe Biden ? Eh bien, d'abord, il a tenu un discours sur l'état de l'Union extrêmement vigoureux qui a en partie rassuré les troupes démocrates. Ça a été un exercice très long, il l'a très bien mené de façon dynamique et d'ailleurs, avoir les visages assez blafards des républicains à la sortie au Congrès, on sentait bien que l'exercice avait été réussi.
Je sais que je n'en ai pas l'air, mais je suis là depuis longtemps. À mon âge, certaines choses deviennent plus claires que jamais.
Je sais l'histoire américaine.
Je connais l'histoire américaine. Encore et encore, j'ai assisté à la lutte entre des forces concurrentes dans la bataille pour l'âme de notre nation. Entre ceux qui veulent ramener l'Amérique vers le passé et ceux qui veulent la faire avancer vers l'avenir.
Mais c'est évident que la question n'est pas évacuée et qu'elle se trouvera de toute façon au cœur de la campagne à venir. Et une des façons pour les conseillers de Joe Biden de rassurer le public, eh bien, c'est de le montrer au contact, avec les gens, avec les électeurs, en meeting, le plus possible, au lieu d'essayer de le couver, ce qu'ils ont beaucoup, beaucoup fait, de le protéger, de le mettre sous cloche au cours de l'année écoulée.
Et alors, Piotr, mis à part cet handicap physique, j'aimerais qu'on en vienne peut-être à d'autres points faibles de Joe Biden, et peut-être en premier lieu son bilan. On entendait en début d'épisode, dans le reportage de notre productrice Garance Munoz, cette militante certes trumpiste, Rachel, qui nous disait que sous Donald Trump, les taux d'intérêt étaient plus bas, les prix étaient moins chers. Et ça, c'est un ressenti qui est partagé par beaucoup d'Américains aujourd'hui.
Oui, il y a un décalage absolument fascinant entre les indicateurs économiques objectifs, c'est-à-dire la croissance économique très forte, la plus forte de tous les pays occidentaux, 15 millions d'emplois créés en 3 ans, des investissements majeurs, massifs dans l'avenir du pays, dans les infrastructures, dans les secteurs clés de l'économie, dans l'économie verte ou alors les microprocesseurs. Mais de l'autre côté, les gens ont l'impression d'un appauvrissement. Et une des grandes réussites de Donald Trump, sur le plan de la communication politique, c'est d'avoir diffusé une sorte de nostalgie d'un âge d'or qui n'a existé d'ailleurs vraiment qu'en partie sous sa présidence, notamment au sein de l'électorat conservateur. C'est vrai qu'il y a eu une inflation absolument redoutable au cours des dernières années, mais qui ne sont pas directement dues aux politiques conduites par Joe Biden, mais les gens regardent avant tout des indicateurs de leur vie quotidienne, le prix de l'essence, le prix du caddie au supermarché, ou alors les prix des loyers. Et effectivement, ils éprouvent une forme d'amertume à cet égard.
Piotr, on a vu les principales faiblesses des candidats, l'âge de Biden, les problèmes judiciaires de Trump. J'aimerais qu'on arrive peut-être maintenant à une autre fragilité qu'ils ont tous les deux, c'est leur crédibilité sur des sujets majeurs pour les Américains. Alors, du côté de Trump, on sait que l'IVG est très clivante et a fait perdre beaucoup d'élections intermédiaires aux républicains. Et du côté de Biden, c'est l'immigration. Il est accusé d'ouvrir grand les frontières de l'Amérique. Ces deux sujets, ce sont des faiblesses pour les candidats.
Oui, ce sont vraiment des faiblesses majeure et pour différentes raisons, et que les deux candidats d'ailleurs essayent de corriger. Prenons d'abord l'avortement. C'est vrai que depuis la décision de la Cour suprême en juin 2022 de retirer ce droit constitutionnel à toutes les femmes américaines et de renvoyer l'avortement au niveau des États, les républicains subissent des défaites sur défaites lors des référendums locaux ou lors des élections locales. C'est tout à fait spectaculaire. Et quelle est la raison principale de ces défaites? C'est une mobilisation massive chez les jeunes et chez les femmes. Donald Trump en est parfaitement conscient. Donald Trump, qui n'est pas du tout un chrétien fervent et qui a une approche purement transactionnelle de la politique, voit cette faiblesse, l'a clairement identifiée. Et il aimerait que le Parti républicain, comme il dit, soit plus malin, c'est son expression, soit plus malin sur cette question et trouve donc une forme de compromis. On peut s'attendre à ce que, au cours de la campagne, Donald Trump prenne une initiative et propose donc une forme de compromis avec une loi fédérale votée au Congrès qui limiterait le délai pour l'avortement à 14, 15, 16 ou 17 semaines. Évidemment, la partie la plus conservatrice de l'électorat républicain serait très contrite par cette initiative, puisque eux considèrent que l'avortement doit être purement et simplement banni. Mais la réponse de Trump sera « ne vous plaignez pas, car la fin de l'arrêt Roe contre Wade, décidé par la Cour suprême, c'est grâce à moi, parce que c'est sous ma présidence que 3 nouveaux juges conservateurs avaient été désignés à la Cour suprême ».
Donc ça, c'est du côté de Trump pour l'IVG. Qu'est-ce qu'il en est du côté de Biden pour l'immigration, un autre talon d'Achille pour le démocrate?
Oui, avec l'âge de Joe Biden, l'immigration, c'est l'argument principal de la campagne Trump en 2024. Il en parle matin, midi et soir. Il parle d'invasion. Il parle du fait que le sang américain est empoisonné par les vagues de migrants illégaux en provenance du sud du continent américain et qui traversent la frontière avec le Mexique. Et donc, c'est vraiment un sujet absolument majeur de sécurité nationale, comme le disent les républicains. Et face à ça, Joe Biden a eu du mal à mettre en avant pendant très longtemps des arguments politiques. Il a été très longtemps dans le déni. Il y a eu une sorte de renversement de tendance, car à la fin de l'année 2023 et début 2024, un groupe de sénateurs bipartisans a mis en avant un texte de compromis, mais assez répressif, pour résoudre enfin la question migratoire, en donnant notamment bien davantage de moyens à la police aux frontières et aux différents services compétents. Et que s'est-il passé? C'est Donald Trump lui-même qui a fait pression sur les élus à la Chambre des représentants, et notamment sur le speaker, Mike Johnson, pour les inciter à rejeter ce compromis venant du Sénat. Pourquoi? Parce que Donald Trump voulait garder cette plaie ouverte pendant la campagne, car elle lui était profitable comme argument politique.
Et ce que tu nous racontes, Piotr, Joe Biden a d'ailleurs bien insisté dessus lors de son discours sur l'état de l'Union.
Et si mon prédécesseur nous regarde, au lieu de se livrer à des jeux politiques et de faire pression sur les membres du Congrès pour qu'ils bloquent ce projet de loi, rejoignez-moi pour dire au Congrès de l'adopter. Nous pouvons y arriver ensemble. Mais voici ce que je ne ferai pas. Je ne diaboliserai pas les migrants en disant qu'ils empoisonnent le sang de notre pays. Je ne séparerai pas les familles. Je n'interdirai pas des personnes d'entrer sur le territoire en raison de leur foi.
Piotr, pour finir cet épisode, on a vu que ces deux candidats se sont donc imposés aux primaires. Ils sont incontournables désormais dans leur propre parti. Ils sont comme une évidence chez les républicains comme chez les démocrates. On a vu aussi les faiblesses qu'ils doivent surmonter. Au fond, j'aimerais te demander maintenant, quels sont leurs arguments de fond? Quel futur désirable est-ce qu'ils promettent l'un et l'autre qui peut demain convaincre l'électorat?
Ce qui me frappe dans cette campagne qui commence, c'est la difficulté des deux candidats à se projeter dans l'avenir, à offrir un avenir enthousiasmant au pays. Mais pour différentes raisons. Donald Trump promet avant tout un rétablissement. Le retour de la puissance américaine, avec à nouveau des forages dans tous les sens, avec une frontière à nouveau hermétique, etc. etc. Mais que dit-il de l'avenir du pays? Que dit-il de la crise climatique? Rien. On retrouve un peu cette même difficulté à penser l'avenir chez Joe Biden. Pourquoi? Non pas parce qu'il ne pense pas à l'avenir, au contraire, il a investi massivement dans cet avenir. Joe Biden est en quelque sorte victime de son avantage, qui est celui d'être un président sortant. C'est très difficile pour un président sortant à nouveau en campagne de se dédire. Donc, que propose-t-il au peuple américain? Il dit « il faut que je finisse le travail ». C'est son expression « finish the job ». D'accord, mais finish the job, c'est pas forcément un slogan hyper enthousiasmant parce qu'on a l'impression d'une continuité, alors même que les sondages de popularité de Joe Biden sont vraiment en berne. Donc, Cette élection présidentielle risque avant tout d'être une course par élimination, une course d'obstacles où chacun s'avance avec des poids aux pieds. Et donc, c'est celui qui sera le moins handicapé ou qui pourra provoquer le plus fort rejet de l'autre qui franchira la ligne d'arrivée en tête.
Merci, Piotr.
Merci.
Vous pouvez retrouver tous les articles de Piotr Smolar et suivre l'actualité américaine sur notre site lemonde.fr. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour vous abonner au Monde et accéder à l'ensemble de nos contenus. L'heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.